débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité. Et Jean-Pierre Petit, je fais le programme. L'actualité économique du jour. On va parler de l'écart de taux entre le Bund et l'OAT, l'obligation allemande, l'obligation française. Oh, c'est pas grave pour l'instant, hein. 47 points de base d'écart hier, 64 aujourd'hui. Combien demain? Combien après-demain? Le problème des stress de marché souverain, c'est que quand ça part, ça peut aller très vite. Bon, rien de dramatique, mais il faut que ça cesse. Ce matin, la France emprunte à peu près au prix du Portugal et c'est évidemment le résultat de la terrible incertitude politique liée à l'annonce de la dissolution. On essaiera peut-être de dire un mot des prévisions de la Banque de France. C'est plutôt pas mal, ça un peu dans les clous, ça confirme ce qu'on attendait. On est à 0,8 de croissance en 2024, 1,5, c'est un peu revu à la baisse pour 2025. Un taux de chômage qui culminerait en 2025 à près de 8% avant de redescendre et une inflation à 1,7% en moyenne l'an prochain. Le MEDEF a réagi au programme économique du Rassemblement National qui est un peu plus flou aujourd'hui qu'hier dans la mesure où les portes du pouvoir font que pas mal de sujets pourraient être amendés. En tout cas, bon, ils sont hostiles évidemment du côté du patronat, mais ils ont la conviction que s'ils étaient aux affaires, eh bien ils se méloniseraient très rapidement, comme on l'a vu effectivement en Italie, comme on l'avait vu avec Alexis Tsipras en Grèce. Et sur la question des retraites, question clé tout de même, l'élément le plus cher du programme, eh bien désormais on ne sait pas. Jordan Bardella hier sur RTL à la question des retraites a répondu « nous verrons ». Voilà. On réagira au recul de TF1 et d'M6 en bourse, parce que Sébastien Chenu dit que dans l'éventualité d'une arrivée à l'aide dans l'exécutif, eh bien une privatisation de l'audiovisuel public est possible. Natacha Valla, bonjour.
Bonjour.
Senior advisor chez... Non. Je raye ça.
Il faut que tu aies
tué. Oui. Non, mais c'est pas possible.
Vous voyez que Natacha, elle change sans arrêt. Hein.
Oui, c'est vrai. Je l'ai connue dans une banque américaine, après une grande banque centrale. Enfin, c'est terrible. Doyenne de l'école du management et l'innovation de Sciences Po, présidente du Conseil national de la productivité. Et vous avez publié Le futur de la monnaie chez Odile Jacob. Jean-Pierre Petit, bonjour.
Bonjour.
Président des cahiers verts de l'économie dissipée, Jean-Pierre, ce matin. Bonjour. Organisme de conseil en stratégie d'investissement. Bonjour, Frédéric Farah.
Bonjour.
Économiste, enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous avez publié « No Frexit, ce que les jeunes pensent de l'Europe » chez Fayard. Stress de marché, Jean-Pierre Petit? Ou alors non-événement?
D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire le MEDEF et ce que tu dis toi-même.
Ce que vient de dire le MEDEF, quoi?
Paraît-il.
On leur demande... Moi, je peux vous le faire, en gros, le programme éco, oui, il existe.
Alors, je vais m'exprimer.
Alors, exprimez-vous.
En disant que Tsipras était un gars de gauche... Et même qui tangentait un peu avec l'extrême gauche.
Oui, non, mais c'est
pas ça que je veux dire. Et c'est centrisé.
Oui. Non,
mais Mélanie, qui a été élue en octobre 2022,
oui.
On disait, alors c'était l'appellation des journalistes français post-fascistes. Et en fait, non seulement, il y a rien, mais alors strictement rien qui ressemble un tant soit peu au fascisme ou à l'extrême droite, qui a été réalisé depuis presque 2 ans. Les seuls trucs sont des trucs hyper symboliques, comme l'accord avec la Tunisie sur l'immigration, de petites mesures très symboliques sur Made in Italy. Donc, moi, j'ai bien suivi, parce que moi, j'ai recommandé en octobre 2022 d'acheter de la dette italienne. Et ça a super bien marché, d'ailleurs, la réduction du spread avec la France. Donc, Meloni, c'est... Alors, sur le strict plan économique, c'est également centrisé. Mais donc je ne comprends pas l'expression du MEDEF ou de ce que tu viens de dire.
Alors je précise ce que je veux dire.
Vas-y, ouais.
Tu vois arriver des gars au pouvoir qui viennent avec des grandes postures, bonbons le torse, et après, une fois de plus, on fait campagne en vers et on gouverne en prose. Et ben ils ont.
Non mais je vois pas l'expression mélanchonisé.
Non, mélonisé.
Mais non, mais Mélanie, c'est très. Ben alors là.
Elle a mis de l'eau dans son vin, Mélanie, quand même.
Et c'est exactement ce que je viens de te dire.
Ben c'est exactement ce que je suis en train de dire.
Alors ça c'est
le MEDEF est convaincu.
L'hypothèse Mélanie, ce serait l'hypothèse préférée des marchés.
Oui, ce que
sans
je veux
l'ombre
dire,
d'un doute.
Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas faire toute la liste de toutes les mesures de dépenses, de recettes, les promesses incertaines d'économie. Okay. Mais en tout cas, la certitude du MEDEF, c'est-à-dire ce programme économique, évidemment, pour nous, il n'est pas business friendly, mais on est certain que s'ils arrivaient aux affaires, ils ne le mettraient pas en place ou de manière symbolique.
C'est
ça qu'on appelle la mélanisation.
Non, mais
la mélanisation, ça, je suis d'accord, mais pas la mélanchonisation.
Mais j'ai pas dit mélanchon.
Ah, si. Si.
Non, il a dit Meloni.
Il a dit Meloni.
Jean-Pierre, sans vouloir être de mauvais esprit,
j'ai mal compris.
J'ai dit le RN se méloniserait.
Et ça, ça plaît pas au MEDEF. Alors là.
Si, mais si.
Ah bah alors.
Mais
c'est pas la peine de dramatiser.
Non, on dramatise. Le MEDEF dit hier, évidemment, c'est pas notre tasse de thé, ce programme économique, mais on sait que dans la vraie vie et la réalité aux affaires, il y a plein de trucs qui vont être édulcorés, qu'il y a plein de choses qui n'existeront pas. Donc on est plutôt rassuré sur le fait qu'on n'ira pas au bout de l'ensemble des propositions.
Mais
c'est ce que j'appelle une mélonisation.
Mais de toutes les propositions.
Si.
Mais là, t'as déjà répondu. Il a fait une interview dans laquelle il a dit ah ben la réforme des retraites, on va faire un audit, on verra. Donc il t'a déjà répondu qu'il y a un programme.
Il y a une semaine, en dessous de 20 ans avec 40 ans de cotis, c'était 60 ans. Hein, je suis désolé.
Non mais.
Et là, c'est plus ça aujourd'hui.
Même pas ça. Beaucoup plus compliqué.
Non mais, de toutes les façons.
Frédéric va tenter d'en placer une. Non mais faut pas hésiter, Jean-Pierre. Hein.
Non mais. Je crois que la mélonisation, et non pas la mélanchonisation, je tiens à dire parce qu'il n'y a pas eu de confusion depuis le début, oui, elle aura lieu, mais ils n'ont même pas besoin de l'énoncer. À partir du moment.
Quoi ? Allons-y.
À partir du moment où, depuis un moment de ça, on a accepté l'euro. Alors, accepter l'euro, ça veut dire accepter aussi l'encadrement budgétaire qui l'accompagne. Donc, c'est-à-dire accepter la réforme du pacte de stabilité qui est en cours. À partir du moment où on accepte de ne pas sortir de l'Union européenne, donc c'est-à-dire d'accepter le fonctionnement du marché unique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Libre circulation des capitaux, libre circulation des biens et services, libre circulation des personnes. Une fois qu'on accepte ce cadre général, il est évident que des mesures qui s'en éloigneraient trop ne peuvent qu'être amendées. Sinon, on ne peut pas dire d'un côté « j'accepte le cadre européen », et c'est-à-dire et les obligations qui vont avec, les recommandations du semestre européen, les orientations qui sont proposées dans le nouveau pacte de stabilité, et de l'autre côté, expliquer qu'on va raser gratis, qu'on va dépenser dans tous les sens, et autres. Donc, je pense que Meloni, c'est le bon exemple, et d'ailleurs, quand Meloni arrive aux affaires, qu'est-ce qu'elle fait pour rassurer tout le monde? Elle reprend des gens de l'équipe Draghi,
oui.
Dans son équipe, pour montrer le sérieux budgétaire.
C'était Draghi l'ouvrier. Oui.
Voilà. Ah, et oui. Immédiatement, elle a envoyé 160 000 SMS à des allocataires de ce qu'on appelait le RSA à l'italienne, qui était le revenu de citoyenneté qui avait été mis en place quelques années auparavant, pour dire tout ça c'est fini. Elle a envoyé ça par SMS, donc elle a fait ça d'une brutalité terrible. Elle a dit elle va remplacer ça par un chèque d'inclusion.
Ah oui, je me souviens, le chèque d'inclusion.
Le chèque d'inclusion, ouais. Qui va être moins généreux que cela. Et puis elle a expliqué, dans une logique très européenne aussi, qu'il était nécessaire de passer d'un welfare à un workfare, parce qu'elle estimait que le welfare qui poussait, comme par exemple son revenu de citoyenneté, à désinciter au travail, et qu'elle voulait faire quelque chose qui était plus incitatif, comme on retrouve dans l'assurance chômage. Donc, les fondamentaux généraux, le Rassemblement National, bon, Front National, c'est kiff-kiff bourricot, hein,
c'est RN
aujourd'hui, eh bien, va reprendre ce chemin. Alors, si on croit qu'il y a une rupture profonde qui va arriver en politique économique, non. Et puis, deuxièmement, si un vent de folie traversait ces individus, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on verra sur les marchés financiers que ça va s'agiter. Et ensuite, je vois très bien l'audit qui va être mis en place par le RN et qui se conclura. Les amis, on avait plein de bonnes idées, mais la situation des finances est plus dégradée que possible. Ce sera remis à plus tard. Et tout le monde fera tombera du ciel en disant oh, mais quelle surprise!
Bah là, en fait, Frédéric, vous nous décrivez la vie politique française comme d'habitude.
Hein. Mais bien sûr! Mais évidemment, mais pourquoi il y aurait autre chose?
Mais c'est ça.
On fait un peu comme si les élections avaient déjà eu lieu.
Oui,
elles n'ont pas encore eu lieu. Donc il y a déjà quand même un certain aléa.
C'est un grand classique politique, en fait.
Si on fait le lien avec Natacha l'évolution Mala. Sur les spreads, parce que ça, c'est quand même.
Y revenir.
C'est quand même une question intéressante.
Revenons sur ça.
On voit effectivement qu'il y a un frémissement, un écartement des spreads souverains de la France par rapport à l'Allemagne. Bon, bref. Rien de dramatique aujourd'hui.
En Italie aussi.
Mais c'est un signal. C'est-à-dire que c'est un signal, à mon avis, de trois choses. La première chose, c'est que jusqu'à maintenant, on a bénéficié de la part des marchés d'une clémence. On a un marché de la dette profond, liquide. On a un actif de référence. Bon, tout ça a été quand même très, très stable, malgré une conduite des finances publiques qui n'était pas forcément très, très rigoureuse. On l'a vu
pas
sur
forcément,
le dernier budget.
C'est vrai. Elle a un sens de la litote, Natacha.
On payait un peu moins cher que ce qu'on aurait pu finalement si les choses avaient été bien dans les prix, comme on dit. Ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a d'abord beaucoup d'incertitudes à l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, par rapport à hier, il y a beaucoup d'incertitudes politiques. Et dans le champ des réalisations possibles à l'issue de cette incertitude, il y a des scénarios qui sont des scénarios extrêmes, qui seraient des scénarios où une politique économique qui serait appliquée pourrait induire des déséquilibres plus forts encore, entre parenthèses, des finances publiques, et qui donc inciterait les agences de notation, l'état fondamental des finances publiques à se détériorer. Et ça, on le sent, ça a été un peu la réaction d'impulsion des marchés financiers, de ceux qui ont plus d'incertitudes, ça va pas dans le bon sens, donc les spreads s'ajustent.
La prime de risque
c'est encore
augmente.
Minime. On reste là dans un scénario qui met dans le prix un risque crédit de la France, c'est-à-dire de l'État français au sein d'une union monétaire inchangée, dans une union européenne elle-même inchangée aussi. Ça, c'est pas très grave parce que c'est cohérent. On voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le mini-budget de Truss. Bon, elle est arrivée avec un budget qui n'était pas financé. Les marchés se sont cabrés. Alors là, c'était beaucoup plus sérieux. Mais ça a été radical. Et c'est un peu le langage de ceux qui disent aujourd'hui. Heureusement qu'il y a les marchés. On verra au moment venu. Ils nous enverront le signal dont on a besoin pour revenir un petit peu dans une gestion saine des finances publiques. Le deuxième sujet, qui est un sujet d'une toute autre envergure, qu'on n'observe pas du tout aujourd'hui, mais on joue quand même avec le feu, donc il faut garder ça en tête, c'est que on vit dans un monde, et les jeunes générations vivent dans un monde où elles sont nées avec l'euro, où il y a toujours eu la Banque centrale, où la Banque centrale a pris des places nouvelles, a réinventé la pratique de la politique monétaire. Donc on suppose que ce qu'on appelait dans les années 2008, 10, 12, 15, le spread euro, que la mise en danger de l'euro, ne fait pas partie des scénarios. Et là, moi, j'ai envie de dire, il faudra regarder au moment venu, c'est pas du tout le cas aujourd'hui, mais c'est important qu'on reste dans un monde où l'euro ne sera pas remis en cause, dans l'esprit des marchés financiers.
Il faut absolument que la Banque centrale soit vigilante pour éviter de revivre des moments de stress extrême sur l'euro où la question de sa disparition se pose.
C'est un peu ça. Moi, je pense que cet esprit de responsabilité, et ça a été toute la logique de la conduite de la politique de Mario Draghi à la tête de la Banque centrale européenne, c'est de dire, en fait, la vraie question, elle est là. Donc je m'inscris dans un mandat, je m'inscris dans un nouveau schéma de politique et de mise en œuvre de la politique monétaire, mais en réalité je suis un acteur majeur, et les gouvernements en face de ça, membres de la zone euro, sont aussi des acteurs majeurs pour faire en sorte que là, tout le monde ait intérêt, mais l'euro soit préservé.
Frédéric, et on essaie de passer la parole, mais allez-y,
Oui, je ne vais pas être très long.
Je voudrais avoir l'avis de Jean-Pierre quand même sur le petit stress de 48 heures de petit stress de taux.
Petit. Mais... Oui, d'autant plus que cette question se pose, c'est qu'aujourd'hui, la Banque centrale, comme elle a modifié sa politique économique, c'est pas qu'elle est en train de faire disparaître le filet de sécurité qu'elle a proposé aux États, mais disons que c'est elle qui, très largement, a fait en sorte qu'il y ait une détente sur les taux et éviter la crise des dettes souveraines. Alors aujourd'hui, la politique de la Banque centrale est moins accommodante, il y a des règles budgétaires qui reviennent, même si on les pense moins dures que les précédentes, elles sont pas tout à fait satisfaisantes. Effectivement, il faudrait pas recréer les conditions où il y aurait à nouveau un stress qui arriverait sur les dettes souveraines, mais je doute que si on se retrouve dans ce scénario, que la Banque centrale, même si on n'est plus avec Monsieur Draghi et on peut le regretter, reste passive.
Mais évidemment.
Elle ne pourra pas juste regarder.
Oui, enfin, je veux dire par là que si, là, on est dans un moment d'incertitude, si on rentrait dans une période de pilotage politique très décalé de la France par rapport aux autres pays, la BCE va pas nous faire un QE français ad libitum. Continuez, faites ce que vous voulez, je suis là. Parce que, comment vous vivez les 48 heures post-annonce de dissolution et petite réaction de tension sur le taux à 10 ans français.
Ouais, c'est assez logique sur les taux.
Oui, c'est assez logique.
Il n'y a pas que ça. Il y a une petite baisse de l'euro. Et il y a, sur les valeurs domestiques françaises, sur le marché actions, il y a aussi un derating. C'est-à-dire que le marché actions français, le CAC 40, par exemple, a sous-performé. Mais au sein du CAC 40, ce sont surtout les valeurs domestiques ou les valeurs sensibles au taux. Les bancaires, par exemple, qui ont souffert. Les concessionnaires, ceux qui dépendent de la dépense publique. Enfin, de la commande publique, plus exactement, qui ont souffert. Les small caps françaises ont plus souffert que les small caps européennes, parce qu'elles sont complètement dépendantes, enfin, principalement dépendantes de la conjoncture française. Donc, il y a un derating français, là, actuellement, sur les marchés modérés, mais qui avait déjà commencé un petit peu sur le spread de taux, hein, parce que je rappelle qu'avant la dissolution, on était à 50 points de base. Il y a deux ans, on était à 20-30. Hein. Déjà, il y avait déjà eu quelque chose. Et nous, on a un modèle basé sur les fondamentaux macroéconomiques, macro-financiers, notamment le ratio de dette, le ratio de déficit, la position extérieure nette aussi, la déficit de la balance courante. Enfin, bon, bref, déjà, il y a une petite anomalie. Le spread français par rapport à l'Italie devrait être plus élevé, puisque l'Italie a un excédent de la balance courante. Elle a un solde, enfin, pas dans les années récentes à cause de Covid, mais dans les 20 dernières années ou 30 dernières années, souvent un solde primaire positif, ce qui est pas le cas de la France. Voilà, voilà. Donc déjà, il y avait une petite anomalie. Une anomalie qui s'expliquait à cause du statut politique de la France, une grande puissance politique militaire, nucléaire. Statut financier, c'est un grand émetteur de dette. Donc quand tu vends la France, où est-ce que tu vas? Soit sur l'Allemagne, tu gagnes rien. Soit sur l'Italie, mais tu n'oses pas prendre des risques. Et puis, moi j'avais dit aux clients que les agences de rating, ça n'aurait aucun impact, et ça n'a eu aucun impact. Par contre, s'il y avait une motion de censure, j'avais noté motion de censure ou dissolution, là, il fallait se poser des questions. Et donc là, il y a ça qui s'est passé. Alors, Natacha a raison de noter que, contrairement au début des années 2010, effectivement, il n'y a pas de question sur l'appartenance à la zone euro ou à l'Union européenne. Alors, c'est là, ça se posait pour la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc. Au début de la décennie 2010, là, c'est plus le cas. Mais il y a quand même une incertitude politique indéniable qui génère un stress, une prime de risque autonome et qui est pas facilement contrôlable, parce que sur le marché obligataire comme sur le marché actions, ce qui marche le mieux, c'est les stratégies momentum. En gros, le mimétisme structurel. Oui. Si les autres
Jean-Pierre,
le font,
moi
je le fais.
Là, vous diriez à un investisseur, achète la France ou vend la France?
Non, absolument pas d'acheter la France actuellement. Je dis même je dis même plutôt de s'en tenir à l'écart. Pour l'instant, il y a trop d'incertitudes.
On verra après. Le problème, c'est que c'est loin le 7 juillet, dis donc.
C'est loin.
C'est loin le 7 juillet. Oui, c'est long. C'est un temps long sur un marché.
Pour une élection, là, il l'a fait court, Macron.
Liz Truss, elle a mis 4 jours à mettre la grande Bretagne.
Attention, Liz Truss, c'était un bon exemple, Natacha, sauf que Liz Truss ne faisait pas partie d'une union monétaire.
Oui,
là,
non.
Là, t'as quand même des coussins de sécurité, hein, donc voilà. Elle était toute seule, avec un déficit public, déficit de la balance courante. Une difficulté, un peu comme le Royaume-Uni des années
60. Truc, Jean-Pierre, c'est qu'un stress de marché souverain, c'est comme un cancer foudroyant. Ça peut mettre moins de 5 jours. Et le 7 juillet, c'est dans.
Les marchés vont. Alors, c'est pour ça que Mélanie, c'est très important, parce que les marchés achètent plutôt Mélanie actuellement, c'est-à-dire en gros une alliance plus ou moins directe entre le Rassemblement National, une partie des Républicains, Reconquête. Bon, en gros, si c'est Mélanie, ça va. Après, on ne sait pas trop. Alors, si c'est la reconduite de l'actuelle majorité parlementaire, plus ou moins relative, enfin, j'ai du mal à imaginer majorité absolue, mais admettons relative comme en 2022, ça devrait aller également. Par contre, le vrai sujet, hein, c'est la NUP, ou enfin plus exactement le Front Populaire, parce que là.
C'est-à-dire, vous le mettez où le sujet?
Ah bah, s'il y a une majorité de Front Populaire, je suis à peu près certain que le spread va s'écarter.
S'il y avait une majorité?
Oui, majorité absolue. Ouais,
c'est-à-dire un Front Populaire ex-NUPES qui serait devant le RN.
Devant tout le monde, qui aurait la majorité absolue des sièges.
Il y a quand
sièges.
Même, oui.
Il y a 577 sièges.
Il faut 289. Toutes les enquêtes d'opinion mettent plus de 10 points d'écart quand même. Hein.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais si jamais les évolutions allaient dans ce sens...
10 points d'écart, c'est du... Voilà. Oui, mais... Par contre, effectivement...
Ah non, mais c'est pour ça qu'il n'est qu'à 65 points de base. Mais si jamais passer en tête dans les sondages...
Non, mais c'est pour cela...
On marque une pause, Frédéric, vous réagirez dans un instant. Non,
c'est pas un jugement personnel. Hein. Les questions des investisseurs.
Les premiers sondages mettent clairement le RN en tête, et en numéro 2, le Front Populaire, mais avec plus de 10 points d'écart. Il y a quand même un truc, c'est que il y a, allez, quelques mois, on disait, mais de toute façon, un défaut souverain de la France, au grand jamais. Mais est-ce que aujourd'hui, l'incident de crédit tricolore est quelque chose qui...
Attention,
peut... on marque une pause. Et moi, je pose mes questions tout seul, et puis
je donne mes réponses.
Je me réponds. Bon, on y va. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Quelque chose. Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Natacha Valla, elle est doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, présidente du Conseil national de la productivité et co-auteur du Futur de la monnaie. Chez Odile Jacob, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Frédéric Farah, économiste et enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de No Frexit, ce que les jeunes pensent de l'Europe. Chez Fayard, j'en étais à poser des questions qui fâchent, un risque de crédit, voire un incident de crédit tricolore, est-il possible ?
Alors, c'est difficile à dire, mais bon,
Frédéric Farah.
J'ai des réserves là-dessus, mais je voudrais surtout aussi réagir à ce que Jean-Pierre Petit vient de dire. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, alors si on doit faire un peu d'histoire, si les marchés financiers finalement achètent davantage, entre guillemets, le programme, on va dire RN, que le programme NUPES ou Front Populaire, alors comme vous savez, on est une époque où on aime bien dans notre pays faire plein de références aux années 30, aux années 40, enfin, c'est même un peu fatigant, mais.
Oui, c'est un peu fatigant.
C'est un peu fatigant. On voit Hitler tous les quatre
matins. Oui.
On voit.
Ça marche.
Non, mais c'est vrai que c'est relou de tout ramener au maréchal Pétain.
Mais alors, si c'est cette information qui circulait, ben moi je vais vous le dire, la comparaison qu'on va faire. Le retour du mur de l'argent. Voilà.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est-à-dire.
Cartel des gauches.
On va faire de l'histoire parce que moi j'adore ça. Donc faisons. Alors, le cartel des gauches, quand il arrive, aux affaires en 24, il dit, ben voilà, pourquoi on va pas. Les radicaux arrivent, il dit, ben pourquoi on va pas réussir à faire notre programme? Parce que c'est les 200 familles, c'est le mur de l'argent, etc. Et ben là, puisqu'on adore ces comparaisons à la française, si effectivement on est dans ce scénario-là, ben on va expliquer que, encore une fois, c'est le mur de l'argent, alors c'est peut-être pas les 200 familles, mais c'est évidemment les marchés financiers qui préfèrent le RN à la gauche, alors si on veut aller dans ce truc-là. Mais laissons cette référence historique, parce que je n'en peux plus des références à la Seconde Guerre mondiale ou les années 30.
C'est très à gauche, le programme éco du RN, fondamentalement.
Oui, mais en même temps, moi ce qui m'intéresse, c'est, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, on disait, oui, on se retrouve au niveau du Portugal. Pour moi, ça a toujours été le truc qui m'a frappé. On nous avait raconté, et donc ça avait donné aussi des drôles de trucs, que quand on avait l'euro, on allait avoir une espèce d'indistinction du débiteur. C'est-à-dire que ce soit les Grecs ou les Allemands, ils allaient avoir les mêmes taux. Et on a
vu. Ça fait 15 ans que c'est fini, Frédéric.
Oui. On a cru pendant quelques années. Mais pourquoi c'est important que je le dise? Pour une raison simple. Alors, on a donné aux Grecs et aux Allemands la même chose. On a vu que bon, c'était pas la meilleure idée du siècle.
On a confondu la dette grecque et la dette allemande.
Pour moi, sans vouloir pinailler sur les détails, si finalement on distingue la nationalité de l'émetteur, je dis toujours, est-ce que la monnaie est restée aussi unique que ça, puisqu'effectivement on retrouve la composante nationale comme autrefois, mais de manière déguisée. C'est-à-dire que effectivement, normalement, on devrait dire celui qui émet ça, il fait partie de la zone euro. Point.
Sauf que Frédéric, si l'Italie n'émettait pas en euros mais en lire et la France en francs, c'est pas ces taux-là qu'on aurait.
Mais en même temps, on aurait pu penser qu'avec la monnaie unique.
Oui, mais enfin, si j'ai bien compris.
Elle a écrit le futur de la monnaie.
Ce que tu dis, c'est que si jamais il y a une coalition de gauche, le Front Populaire, ils vont dire bon, on peut pas tout faire. C'est ça que tu veux dire.
Oui,
ça, mais ils vont tous dire ça. Le RN va dire on peut pas tout faire.
Quand même,
ils peuvent. Une cohabitation.
Parce que pour le MEDEF dont on parlait tout à l'heure, s'ils remontent le taux d'IS au niveau antérieur, s'ils abolissent le prélèvement forfaitaire à 30%, s'ils rétablissent l'ISF, enfin, je veux dire, ça a des conséquences macro quand même.
Et c'est vrai que
ça, ils peuvent le faire. C'est-à-dire, ça, le marché.
On va au-delà.
Ça, le marché, ils attaquera pas là-dessus.
Je rappelle juste que le RN a dit qu'il voulait légiférer par ordonnance. Ça veut dire qu'il vous faut une loi d'habilitation. Il faut que le président signe les ordonnances et qu'il y ait une loi de ratification.
Bah, c'est le retour.
C'est de la cohabite. Et la cohabitation, on fout là ce qu'on veut. La cohabitation, on change pas la constitution, par exemple, pendant la cohabitation. Donc,
c'est Chirac, Mitterrand, 86.
Oui, mais.
Non, mais je sais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les marchés, a priori, quand même, le plus gros risque actuellement. Quand on voit à peu près, même en tenant compte de ce que tu viens de dire, c'est quand même le risque Front Populaire. Après, c'est la reconduite de la majorité actuelle et le cas Meloni, on va dire. Voilà.
Personne n'imagine une seconde qu'il y ait une cohabitation avec le Front Populaire. Enfin, ça semble.
Mais, oui, mais attends, ils ont quand même. La gauche n'a pas fait un si mauvais score aux
Européennes. Aux Européennes, c'était Glucksmann avec ce. C'était
le PS. Ils ont fait 31. Mais ils ont fait exactement le même score qu'en 2022. J'ai bien vérifié.
En cumulant toutes les forces
de gauche. Les quatre forces de gauche qui font partie de du Front Populaire.
Oui, mais je pense qu'il y a une partie de l'opinion gauche modérée qui aura un peu de mal à voter dans une forme. formation politique.
La droite modérée qui aura du mal
oui,
à voter.
Parce que le LFI 2024, c'est pas le LFI 2022.
Vous savez, les élections, je veux dire, des fois, il y a des surprises. Non, mais il y a vraiment des surprises. Jamais
c'est
oublié
vrai,
que
oui.
La République s'est imposée en France au début des années 1870 avec une voie d'avance, c'est l'amendement Vallon. Des fois, il y a des phénomènes tout à fait qui passent ric-rac pour des.
Natacha voulait réagir, elle a un déficit de temps de parole. Il y a Pascalou qui m'écrit que le RN veut rétablir l'ISF, ce qui est vrai. C'est un impôt sur la fortune.
Ça fait le lien.
C'est exact, ils veulent supprimer
les marchés, ce qu'ils vont regarder, ils vont regarder l'impact sur les finances publiques. Il y aura peut-être des turbulences potentiellement fortes sur les taux d'intérêt qui s'appliquent à la dette française et ce sera peut-être une bonne nouvelle.
C'est quoi une turbulence forte?
Ben, des spreads qui arrivent.
200 points de base.
Pourquoi? Enfin, moi, ça me
choquerait pas. On est monté à 190 au moment de la crise des dettes souveraines.
Ça me choquerait pas du tout, mais ça, en soi, c'est pas grave. C'est un signal. Ce qui est plus important, c'est comment on juge l'économie française, l'impact sur la croissance, l'impact sur les flux d'investissement étrangers, sur l'attractivité du pays. Ces choses qui sont à l'articulation du très court terme et du moyen terme, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont là. Donc, en gros, il y a beaucoup de traders qui vont sûrement faire beaucoup d'argent dans les mois qui viennent, ça c'est sûr, parce qu'il y aura plus de volatilité sur les taux. Mais il y aura ensuite des logiques d'investissement d'un peu plus long terme qui porteront à conséquence plus longtemps. Et ça, je pense que c'est important de le garder en tête aussi.
Ce qui est important de ce que dit Natacha, c'est qu'effectivement, si tu as une augmentation du taux d'IS uniquement, le taux d'IS...
Impôt sur les sociétés.
Rétablissement de l'ISF et abolition de la baisse du prélèvement forfaitaire à 30%, pour moi, en soi, ces mesures-là, c'est ce que je dis à mes clients, même si ça les gêne, je leur dis, ça, il n'y a pas trop d'impact sur le spread. Mais par contre, il y a un impact macro. Incertitude pour les entreprises, etc. Et là, c'est pas tellement au niveau du spread, ce sera... Plus exactement, d'abord au niveau de la croissance, décrochage supplémentaire de la France, et a donc ensuite éventuellement impact sur le spread, parce que ça aura des implications pour les finances publiques. C'est ça qui me gêne un peu là.
À partir de quel niveau de spread, Boundo AT, vous diriez il y a le feu?
Non, pour l'instant. Alors,
pas aujourd'hui,
non,
pas là.
Non, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est sur la soutenabilité.
Oui.
C'est-à-dire compte tenu du solde primaire, compte tenu du taux d'intérêt apparent de la dette et de la croissance nominale, qui sont les taux.
Il y a eu le feu en Grande-Bretagne, il y a eu le feu en Italie déjà. Il y a eu le feu en Grèce. Donc bon.
Alors, disons que ça. Alors, nous, on avait effectivement travaillé là-dessus même avant les décisions des agences de rating. Ça commence, c'est les niveaux que tu as mentionnés tout à l'heure, avant l'élection de Hollande, on tangentait les 200 bips à peu près. Ça fait monter le taux apparent. Mécaniquement, alors c'est graduel parce qu'évidemment c'est sur le stock de dette qu'on refinance, c'est ça qui est important, mais ça commence, mais surtout on déclenche c'est ça sur les marchés difficilement prévisibles parce que ça déclenche les mouvements auto-réalisants. Tout le monde fait comme tout le monde.
Oui,
voilà, quelle que soit notre opinion.
C'est dit animal spirit.
Animal spirit.
Total. Mais c'est pour ça.
Gains,
mais c'est pour
là,
ça qu'on
de beauté.
Mais c'est là, pour faut réagir. Faut que le gouvernement réagisse et éventuellement la BCE.
Mais je vous rappelle juste que Liz Truss, ça met moins d'une semaine. Oui, le FMI est aux portes de Londres. La Banque d'Angleterre intervient pour éviter l'Armageddon des fonds de pension.
Certes, mais la Grèce, ça prend 5 ans et demi.
La Grèce...
Premier spread, quand on voit qu'avec Goldman Sachs, ils ont triché, c'est fin 2009. Et le dernier accord avec le référendum, un peu tragicomique, de l'été 2015, c'est juillet 2015.
Oui, mais... Faut pas oublier que le défaut grec, c'est le plus gros
défaut de l'histoire d'un pays occidental.
Oui, non, mais ça prend 5 ans et demi, mais parce que la Troïka est derrière. Si la Troïka est pas là, c'est...
Je te dis, ça peut durer, quoi.
Non, mais en même temps...
Italie 2011, il a fallu, moins de 4 jours pour que les affaires de Berlusconi, on mène le taux long italien à 8.
Oui, alors n'oubliez pas que...
Et on met Monti en urgence, et c'est un coup d'état parlementaire qui vire Berlusconi pour mettre Monti en catastrophe.
Importance des gouvernements...
Nommé sénateur à vie par Giorgio Napolitano.
Importance des gouvernements, des décisions politiques des gouvernements, mais importance de Mario Draghi fin juillet 2012. Qui back le système, si je puis dire.
Oui, mais en même temps...
J'aimerais bien qu'il remplace Ursula.
J'aimerais bien qu'il soit partout, lui. C'est le seul dirigeant européen de qualité.
Mais en même temps, pour revenir...
On vote Mario.
Je pense que Natacha est d'accord.
Je sais que Philippe Aguillon voterait Mario aussi.
Tout le monde vote.
Moi, j'attends d'ailleurs sa note, là, grande note en juin sur l'avenir de l'Europe.
Ce qui avait été inquiétant à l'époque, c'est quand même se dire que c'était un pays comme la Grèce qui pesait autour de 2% du PIB européen qui pouvait être à l'origine d'une crise pareille.
Personne ne le pensait au début.
Parce qu'effectivement, si ça venait de l'Allemagne, vu le poids, on aurait dit, c'est normal, comme foyer. Mais un pays qui pèse 2%, on se dit, bof.
Et pourtant, si.
C'est à quoi on aille. Et d'ailleurs, on revient sur le cas italien. aujourd'hui, les présidents italiens, hier Napolitano, aujourd'hui Mattarella, etc., leur fonction, c'est pas simplement de garantir la constitution italienne. On voit bien quand les gouvernements se constituent, c'est pour cela qu'elle veut aussi modifier la constitution. Ils vérifient toujours que ceux qui sont retenus ou choisis dans les gouvernements ne prennent pas des orientations trop contraires aux intérêts européens. Et ça, c'est l'évolution de la fonction du président italien. Il n'est pas simplement le gardien moral ou le gardien de la constitution, il s'assure des engagements. Et c'est pour cela que dans la réforme constitutionnelle que veut faire Mme Meloni, que je suis de près, le président de la République, il risque de se retrouver marginalisé dans son rôle.
Le reconnaît que c'est quand même très soft par rapport à tout ce qu'on craignait en 2000.
Mais oui, mais c'est pour ça.
Mais c'est pour ça que je tiens... Non mais la dernière fois qu'il y a eu une politique économique, on va dire, très différente de tout ce qu'on a vu, c'était 81. Après 81, toutes les politiques économiques qui commencent à partir de mars 83 aujourd'hui, c'est de la nuance, ça se discute, il y a des choses et tout. Mais les tendances de fond sont restées les mêmes. La dernière fois qu'on a vu vraiment une politique économique très très différente, qui n'a pas duré très longtemps, c'était 81.
Après 80, ça dure deux ans et au bout de deux ans, c'est
après 80,
le tournant.
Voilà. Même quand il y a eu la gauche plurielle fin des années 90, la politique économique conduite, ça reste quand même dans une orthodoxie de manière globale.
Et c'est exactement ce qui pousse les gens à se dire, peu importe pour qui tu votes, c'est toujours la même chose, il ne se passe jamais rien et on a envie d'essayer autre chose.
Parce que le cadre économique, à partir du moment où vous acceptez le cadre économique général, c'est-à-dire ce que je dis tout à l'heure, l'euro, le marché unique et les engagements européens, les politiques économiques que vous engagez ne peuvent pas être fondamentalement différentes. C'est tout simplement parce qu'on s'est engagé là-dessus, donc tous les gouvernements qui viennent ne peuvent pas proposer une rupture économique. Qu'ils s'appellent RN, Front Populaire, Front Martien, je sais pas qui, Front National, Rassemblement National, Amour National, j'en sais rien, ce sera la même chose.
Le futur de la monnaie, Natacha Valla, par moment, on pourrait mettre un sous-titre, l'euro est-il mortel ?
Toutes les monnaies le sont à très 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 long terme. Le dollar est dominant aujourd'hui sur l'économie mondiale. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, il ne le sera plus. Les choses évoluent lentement mais sûrement.
Je pense 58% des réserves de change, ça reste inchangé.
Oui, mais il y a des tendances. Les monnaies émergentes se mobilisent. On voit qu'il y a une substitution. Il y a une organisation justement de cette substitution dans le monde émergent qui fait que l'euro garde sa place en fait dans cette architecture internationale. Moi, je trouve qu'il a été plutôt résilient, plutôt même très résilient.
C'est l'un des éléments centraux du bilan de l'euro. C'est quand même une forme de stabilité.
Mais il faut espérer
même si
que ça reste.
Frédéric est très critique sur le dernier point.
Mais ça doit rester un objectif politique. Ça doit rester un point de concorde entre tous les membres de la zone euro.
Ouais, mais Jean-Pierre Petit.
De toute façon, personne n'a trouvé la bonne technique, la bonne séquence pour sortir d'une union monétaire aussi intégrée que celle qui existe aujourd'hui, qui est née à Hanovre en juin 88. Qui a mis 14 ans avec l'accélérateur de la réunification allemande pour que les billets et les pièces rentrent dans nos poches le 1er janvier 2002. Vous vous rendez compte du truc qu'on a construit ? Personne ne sait démanteler ce truc-là sans coup majeur, bien évidemment.
Sans coup majeur.
Sans chaos majeur.
Je ne dirai jamais la formule de Yves Thibault de Silgy, l'euro est une autoroute sans sortie.
Cette union,
c'est un aller simple. California, d'ailleurs, mais
C'est un aller simple.
C'est un
aller simple. Les unions monétaires qui ont échoué dans le passé, c'est l'union monétaire latine.
Vous allez me le désespérer, Frédéric Farah.
C'est l'union monétaire scandinave. Moi, je les ai bien étudiées. Elles ont échoué, mais elles n'avaient pas du tout le caractère d'intégration qu'on a aujourd'hui.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que qui avait rejoint l'union monétaire latine, c'était la Grèce qui en est sortie en 1908.
Absolument. La Grèce a foutu le bazar.
Oui, en 1908.
Et la Suisse n'a pas aimé. Du coup, elle a décidé de ne plus avoir aucune union monétaire.
Ça vous intéresse, TF1 qui perd 7%, M6 3,1 hier ? Parce que Sébastien Chenu dit sur BFM TV, si on est là, on privatise l'audiovisuel public.
Oui, parce que je pense que c'est plus de la rhétorique politique. C'est parce qu'il n'est pas content du traitement politique.
Mais il faudra des recettes aussi pour financer tout leur truc.
Évidemment. Bon. Et puis, je crois que c'est juste ça, c'est tout. Je crois que ce n'est pas la priorité du gouvernement.
Non, mais en tout cas.
Si jamais Jordan Bardella est Premier ministre. Ça m'étonnerait que ce soit ça.
L'idée, c'est qu'évidemment, s'il y avait un nouveau pôle privé, grand pôle privé de l'audiovisuel, ça rognerait le marché publicitaire.
Je m'excuse de revenir sur le cas Meloni quand même, mais ça a impressionné les dirigeants à la fois du Rassemblement National et Ciotti. Je pense que si Ciotti a pris cette décision un peu qui peut paraître assez insensée à certains hier, c'est pas pour rien. C'est parce que Meloni, vous avez vu ses résultats à l'élection européenne, elle augmente.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, c'est la principale dirigeante européenne aujourd'hui, puisque en fait,
c'est elle qui a marqué
Macron est démonétisé, Scholz, n'en parlons même pas. Je veux dire, le pauvre avec ses 14%, c'est la dirigeante européenne.
Mais oui, c'est ce comme certains disent, elle fait du techno-souverainisme.
Oui, c'est ça.
Techno-souverainisme.
Mais oui, c'est-à-dire,
c'est bien d'inventer des concepts.
C'est-à-dire, elle a une équipe de technocrates. On le voit bien parce que même, il fallait qu'elle renégocie avec l'Union européenne pour certains objectifs du fameux plan de résilience et autres. Elle veut montrer qu'elle a les équipes, qu'elle arrive à le faire largement. Je ne pensais pas un seul instant quand Meloni allait arriver. On n'est plus dans la séquence 2013, 15, 16, 17 où certains disaient on veut sortir de l'euro, etc. et tout. Et il y a plein de gens de la Ligue qui avaient des économistes extrêmement brillants, je pense à Alberto Bagnai par exemple, qui avaient théorisé l'idée d'une sortie de l'euro et autres. Il s'est mis à la Ligue en espérant que ça arrive. Bah, il a mangé son chapeau, hein, puisque.
Oui, s'il t'achetait la Ligue.
Ben, voilà, je veux dire, c'est un fait. Donc, je ne crois pas du tout que le cadre général, qui que ce soit, veut le remettre en cause.
Il y a un auditeur, Christophe, qui me dit « Pourquoi le RN est mauvais pour la France alors que Meloni en Italie a réussi ?»
C'est ça, la réaction hier, c'est ça.
Ouais. On a 10 minutes. On a fait le tour, là, quand même. Sujet, je crois.
On a fait un premier tour.
Dans l'actualité économique, je voudrais vous faire réagir à l'interview de Christine Lagarde dans Les Échos hier. C'est quand même un sujet très BFM Business. Je commence avec Natacha. Comment vous appréciez Madame Lagarde qui dit je veux 2% d'inflation, tant que j'ai pas mes 2%, je baisse pas les taux. Je le fais un peu à l'enfantin, mais c'est un peu ça.
Mais qu'est-ce qu'elle peut dire d'autre? En fait, c'est son rôle, la Banque Centrale. La condition d'efficacité de l'action de la Banque Centrale. Et on sait que l'action de la Banque Centrale, elle peut être extrêmement puissante.
C'est déterminant, en fait, aujourd'hui.
C'est la personne la plus importante de l'Europe. Mais bien sûr, c'est de rester dans les clous et dans l'esprit de son mandat principal. Et son mandat principal, c'est la stabilité macroéconomique qui s'exprime par la stabilité des prix.
Macron voulait qu'elle mette croissance-emploi en plus.
Mais le croissance-emploi, ils y sont en conditions secondaires. Ça fonctionne quand même très bien. On se rend compte que ce soit dans des circonstances qui, cycliquement, sont difficiles ou des circonstances de crise, ce mandat-là, que beaucoup jugent trop orthodoxe, eh ben, il a été suffisamment souple pour aller faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé.
Maintenant, d'ailleurs autour des 2%, alors qu'avant, il fallait l'approcher en restant en dessous.
Alors, ça a été 2 ans de discussion.
Oh là là, oui, on a écrit la doctrine du 2%.
Mais de fait, moi, je pense qu'elle ne peut pas dire mieux que
d'accord.
ça. Et le fait qu'elle le dise, c'est vraiment rassurant.
Bon, les 2%, Jean-Pierre,
petit. Il faudrait que ce soit une femme qu'elle s'affirme comme vraie dirigeante politique. Parce que dans politique monétaire, je le rappelle toujours, il y a politique. Et Mario Draghi. Mario Draghi, il a joué un rôle politique. Il n'a pas joué un rôle technique monétaire.
Elle s'affirme tout. Oui.
Mais t'as vu les challenges qu'on a à affronter pour les prochaines années? Enfin, je veux dire, on a besoin du soutien de la seule institution fédérale intégrée de la zone euro. C'est évident. Et on n'a pas besoin d'un organisme comptable qui regarde si on est à 2,0%. Mais... Ça, c'est ridicule.
Les
anticipations d'inflation baissent, la productivité va un peu remonter, salaires commencent à décélérer.
Mais il faut comprendre, quand elle dit l'objectif c'est 2%, elle dit pas je suis constable et l'objectif c'est 2%. Elle dit j'ai un consensus à obtenir autour de la table du Conseil des gouverneurs. J'ai peut-être des choses énormes à leur faire accepter de façon la plus consensuelle possible. Si je pars en disant je vais remettre en cause mon mandat et mes statuts, et ça complique les choses pour rien.
Mais n'oublie pas, Natacha, que Mario Draghi n'était pas consensuel au début.
Il n'a jamais dit autre chose que l'objectif des 2%, Mario Draghi.
Oui, mais il a été critiqué quand l'OMT a été mis en place en 2012, je me rappelle.
Il disait 2%.
Il a été critiqué en Allemagne quand il a mis en place plus tard, 2 ans après, le quantitative easing. Il a été critiqué. L'ancien gouverneur de la Bundesbank que j'arrêtais pas de critiquer.
Reinmann.
Il critiquait implicitement. Draghi évidemment.
Il critiquait, mais il a signé. Il a dit oui.
Mais
comme
il
ne
faut
autres.
Pas chercher le consensus. Il y a un moment, moi, j'attends des dirigeants, de banque centrale comme des dirigeants politiques. J'attends.
Oui, mais
qui prennent des positions audacieuses.
Non, mais parce que l'audace de la position, elle se fait dans l'épure du discours, et l'épure du discours du banquier central, c'est celle-ci. Le plus fort pouvoir politique qu'une banque centrale peut avoir, c'est en restant dans une logique et un discours qui est contenu dans l'importance de la délégation qui lui est faite, de la souveraineté monétaire. Et cette délégation, elle lui est faite par les ordres constitutionnels des différents pays membres.
C'est très bien que la norme de 2% ne correspond à aucune optimalité historique.
Mais c'est pas la question. On discute pas du 2 ou du 4% aujourd'hui. On va pas se mettre à rouvrir la stratégie de politique monétaire en disant est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est 4 aujourd'hui. Puisque ça, pour moi.
Aujourd'hui, parce qu'il faut faire baisser les taux réels.
Mais ça, c'est la vraie question, c'est la survie de l'euro. On a dit que c'était pas vraiment en cause, mais quand même, il faut quand même garder ça en tête. Et après, qu'on décide 2%, 4%, en période de paix et en période de stabilité macroéconomique, on peut se donner le luxe d'avoir cette réflexion. Mais pour moi, c'est une réflexion qui est avant tout rhétorique. C'est l'esprit, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, c'est l'esprit de responsabilité politique d'une institution qui est publique, qui doit s'exercer dans cette...
Juste un point, ce que tu... J'en ai juste pour une seconde, sur ce que tu viens de dire. Justement, on n'est plus en économie de paix, hein. On a, alors, David Bavrez exagère quand il dit économie de guerre.
Mais... Nicolas Bavrez.
Non, David, ah oui. Non, c'est le frangin.
Ah oui, oui.
On a une économie, de, non pas de guerre, mais de conflictualité. Et donc les dépenses militaires de sécurité, d'approvisionnement énergétique, etc., vont devoir augmenter.
En tout cas, elle assume
donc,
de
diverger. On a besoin d'un taux réel plus bas.
Frédéric, par rapport à ça, et puis Macron qui avait dit, mais il faudrait, comme je rappelle sur l'histoire de croissance et emploi, c'est effectivement, je ne sais plus dans quel article, mais dans la mesure où ça n'a pas d'implication et d'influence sur le niveau des prix et la stabilité des prix, il peut être intégré dans les réflexions, les questions de croissance et d'emploi, dans la mesure où ça...
Il est déjà. C'est déjà écrit comme ça dans
le Frédéric. C'est ce que je dis, c'est écrit comme ça, voilà.
Non, mais c'est écrit comme ça. C'est-à-dire que Frédéric, il n'est, quand on lit les statuts, ce n'est pas écrit objectif unique, c'est marqué objectif principal.
Oui,
voilà. Ouais, c'est écrit objectif.
Il y a les objectifs secondaires.
Voilà, objectif. Et on dit si ça ne porte pas préjudice à ça, il y a le reste. Donc c'est clair qu'on a créé une hiérarchie. C'est vrai que la Fed, elle, en 47, modifie son statut pour mettre la croissance comme objectif. Donc ça, c'est une réforme de la Fed en 1947 qui génère la transformation. Mais par rapport au débat là-dessus, c'est l'ambiguïté de départ. C'est-à-dire que l'on a voulu, d'un côté, dépolitiser la monnaie idéologiquement qu'on a construit la monnaie unique, la BCE comme ça. Parce qu'on avait dit... Si on laisse la monnaie entre les mains des chefs d'État, ils vont avoir un usage démagogique de la monnaie à des fins électorales. Il faut soustraire au cycle électoral la gestion de la monnaie.
C'était la volonté d'indépendance des banques centrales historiques.
C'est tout le courant de pensée qu'on retrouve, dans les années 70, dans la nouvelle économie classique américaine qui demande des Prescott, etc. Rules rather than discretion. Bon. Et donc, d'un côté, on dit... Il faut la sortir des États, mais en même temps, la monnaie est quelque chose de fondamentalement politique. C'est-à-dire que... Mais en même temps, au départ, on dit... Attention, si on la laisse entre les mains des gouverneurs divers et variés, chacun va utiliser la monnaie de manière démagogique. Donc, à la fois, on veut la dépolitiser, mais tout en sachant que par nature, elle est politique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que même l'acte 1 de celui qui arrive à la tête de la BCE au début, Wim Duisenberg, le premier. Pourquoi il est là, lui, et pas un autre? Parce que c'est un néerlandais, et on sait depuis longtemps que le florin, par rapport au marque, avait depuis longtemps été dans la lignée du marque. Donc, quand on n'allait pas mettre un allemand, on met un néerlandais qui permet sa... Et donc, déjà, acte 1 politique en tant que tel, en mettant Wim Duisenberg ici.
C'est une très bonne référence. C'est mon premier boss, donc je suis très ému qu'on mentionne Wim Duisenberg.
C'est votre premier boss, Wim Duisenberg.
Oui, parce qu'on l'a un peu oublié, Wim Duisenberg.
C'est un peu l'histoire.
Je m'excuse, c'est juste anecdotique. Wim Duisenberg, son premier acte de politique monétaire à Wim Duisenberg, c'est une baisse des taux de 50 points de base en avril 99. Voilà.
Mais oui, parce que c'était l'époque de l'euro faible dans ces années.
Si on était dans un monde où on avait vraiment que des orthodoxes, vraiment bornés dans une interprétation étroite du mandat de la BCE, alors oui, cette discussion 2%, 2,5%, 3%, aurait une vraie valeur et une vraie importance. Aujourd'hui, l'éléphant dans la pièce, c'est qu'il y a l'objectif de 2% et on s'y tient, mais quand même, on a une panoplie extraordinairement énorme, on a un bilan qui traîne encore des stocks de dette publique considérables, donc en réalité, dans la vraie pratique de la politique monétaire depuis 15 ans, le vrai sujet, il est ailleurs. Donc on peut s'exciter autour des 2%, 3%, mais c'est le vrai sujet est ailleurs.
Oui, enfin, là où je crois comprendre ce que vous dites à Jean-Pierre, c'est que oui, ces 2% font qu'en attendant dans l'immédiat et dans un avenir assez proche, il ne faut pas espérer de nouvelles baisses de taux. Alors qu'on est devant des enjeux...
La BCE ?
Oui.
Ah si, je pense quand même. Si.
Quoi ?
Elle n'a pas fini de baisser ses taux
cette année. Non, pas fini. Ah, cette année encore ?
Ah non, il y en aura d'autres à mon avis. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, les marchés, enfin, tu me diras, les marchés peuvent se tromper, mais ils pricent un petit peu moins. Enfin, j'ai pas regardé hier parce que vu les événements, mais ils pricent encore pas loin de, enfin, un petit peu moins de 75 points de base de baisse en tout. C'est-à-dire en tenant compte de la baisse de la semaine dernière de 25 points de base.
Et juste pour terminer, le fait que oui, elle assume dans cette interview accordée. Alors, c'était intéressant d'ailleurs, et ce que dit Natacha par rapport à la crédibilité. Hier, l'interview aux Échos, elle était accordée à quatre grands quotidiens européens. C'est du très lourd, quoi. Ça sortait en Espagne, en Allemagne, en Italie, en France. Et on sentait que ça avait été relu, mais alors, au mot près.
Mais
c'était presque plus du parler d'ailleurs, c'était presque de l'écrit.
Mais c'est la communication des banquiers centraux est encore plus importante que les outils de politique et monétaire parfois. C'est ce que Pierre-Noël Giraud a appelé très joliment les moyens chamaniques de la politique.
Vous vous souvenez, Frédéric, la première conf de Madame Lagarde, où elle... Je suis pas là pour surveiller les spreads.
C'était pas dans le Covid. C'était juste au démarrage du Covid.
C'est premier. La com de la BCE corrige alors qu'elle est encore en train de parler parce que ça part en vrille.
Mais bien
sûr, parce qu'elle a dit les spreads, c'est pas mon truc.
C'est pas mon truc, là.
Bon, on a 1 minute 30. Elle assume aussi que, oui, je vais diverger de la Fed et alors, c'est pas la première fois.
Bah oui, c'est pas la première fois.
Voilà.
Un grand nombre d'investisseurs avaient l'air de, parce que moi j'ai eu des questions là-dessus, de considérer qu'il faut que la Fed autorise. Je prends l'exemple de Windusenberg, avril 99, il baissait tôt, alors qu'en juin de cette année, la Fed relève ses taux.
C'est pas un sujet
de l'autonomie, c'est pas un
scoop. Non, c'est la situation macroéconomique des zones en question, et puis les spillovers, c'est un sujet qui monte en puissance. C'est les impacts de la politique monétaire propre sur le reste du monde.
Oui, d'accord. Mais en attendant, cette divergence, ça va créer une divergence de valeur de... automatiquement, l'euro baisse par rapport...
Oui, mais c'est assez faible, à mon avis. Et là, s'il baisse, c'est pour des raisons politiques, là, depuis lundi.
Oui, mais
c'est pas tellement pour des raisons...
Il a baissé, il a un peu reculé.
$1.0950, on est à 1.07 ou 1.08
On était plutôt sur 1.08 quelque chose.
Oui, voilà, là, on est plus dans la période où il y a des écarts.
Non, mais c'est...
C'est fini.
Il
faut reconnaître que... C'est stable, oui, oui.
Mais bien sûr, on est resté dans un tunnel, une espèce de couloir, mais on n'est plus du tout où on se retrouve juillet 2008, 1.60 par rapport
pour
à...
Pour terminer,
merci Jean-Claude.
Ce que disait Natacha est vrai, c'est quand même un pôle de stabilité, cette monnaie. Enfin, on vit des chocs géopolitiques de fou. Là, on a la deuxième économie de la zone euro qui est en train de... C'est pas trop où elle va aller.
La première, elle est pas bien non plus, je te signale.
Ouais, la première.
L'AFD fait
quoi? Oui.
La deuxième, elle a des dirigeants politiques qui prennent des décisions bizarres un soir.
Oui, enfin bon, elle a des réserves. Elle a des réserves.
Mais l'AFD a fait 17% malgré des casseroles absolument gigantesques.
On a fini, c'était passionnant de vous écouter, merci pour tout ça. Donc on est bien d'accord, mélanisation et pas mélanchonisation.
Bien préciser quand tu vas
le faire. Je vais vous faire écouter la bande, mais
parce que
petit.
C'est un peu nouveau, mélanisation, alors que mélanchonisation, c'était un peu ancien.
Ma fourche n'avait pas langué. Bon, merci à vous, on se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.